Dr. John Oswalt, Isaiah, Session 10, Isa. 19 à 21. Copyright 2024 John Oswalt et Ted Hildebrand. C'est le Dr. John Oswalt dans son enseignement sur le livre d'Isaïe. Il s'agit de la séance numéro 10, Isaïe, chapitre 19 à 21. Commençons par la prière. Merci, Père, pour une autre occasion d'étudier ta parole. Nous repensons à la liberté dont nous disposons pour faire cela, une liberté que certains meurent d'envie d'expérimenter au moment même où nous parlons. Nous prions pour eux, nous prions pour que vous les encouragiez, nous prions pour que vous les défendiez, nous prions pour que vous les protégiez et accordiez, au Seigneur, que leur amour pour la parole puisse effectivement porter ses fruits jusqu'à 60 fois plus. Et 100 fois dans le monde. Aide-nous, nous prions de la même manière, au Seigneur, délivre-nous d'être ceux qui se regardent dans un miroir et se voient, puis s'éloignent rapidement et oublient ce qu'ils ont vu. Aide-nous, Seigneur, à nous regarder dans le miroir de ta parole pour nous voir là où nous avons besoin d'encouragement, là où nous avons besoin de conviction, là où nous avons besoin de défi, là où nous avons besoin de correction. Aide-nous à regarder dans ces profondeurs et à voir tout ce dont nous avons besoin là-bas, à le recevoir et à sortir pour le vivre pour le bien de votre monde et de votre peuple. Aide-nous Seigneur en ton nom, nous te prions, Amen. Très bien, nous continuons à examiner les leçons des chapitres 13 à 35 sur la confiance et la première partie est celle des chapitres 13 à 23, ne faites pas confiance aux nations. Nous avons vu comment nous avons commencé avec Babylone, la gloire des nations. Quelqu'un a fait remarquer à juste titre la dernière fois que vous n'étiez pas en mesure de voir certains marqueurs, je vais donc essayer de me rappeler d'utiliser les plus sombres. La gloire des nations 13 et 14, les intrigues des nations dans la dernière partie de 14 et 16, l'Assyrie, les Philistins et Moab dans 17 et 18, le tumulte des nations, et ce soir ensuite nous regardons les chapitres 19, 20 et 21. Deux raisons ont été données, ne faites pas confiance aux nations parce qu'elles sont sous le jugement de votre Dieu, ne faites pas confiance aux nations car finalement beaucoup d'entre elles vont se tourner vers votre Dieu pour adorer. Alors pourquoi leur accorder votre confiance? Ce soir, nous allons tout d'abord en Égypte et nous commençons dans les versets 1 à 4 en parlant de l'une des raisons pour lesquelles on devrait peut-être faire confiance à l'Égypte. Verset 1, le Seigneur chevauche une nuée rapide et vient en Égypte et les idoles de l'Égypte trembleront en sa présence et le cœur des Égyptiens fondra en elle. Verset 3, et l'esprit des Égyptiens en eux sera vidé et je confondrai leurs conseils et ils s'enquerront auprès des idoles et des sorciers et des médiums et des nécromanciens. Quelle serait l'une des raisons de faire confiance à l'Égypte selon ces versets? Vers qui les Égyptiens se tournent-ils en temps de crise? Les idoles, exactement. Une des raisons de faire confiance à l'Égypte serait donc son ancienne religion. Comme je l'ai commenté en arrière-plan, les Égyptiens à cette époque étaient de loin le peuple le plus idolâtre de tout le Proche-Orient. Ils avaient un dieu pour tout et pour beaucoup de choses auxquelles on ne pouvait pas penser. Ils n'ont été dépassés dans les temps modernes que par l'hindouisme. L'hindouisme compterait plus de 10 000 dieux, mais les Égyptiens les suivaient certainement de près. Dans le monde antique, les Égyptiens étaient considérés comme une sorte de grand-mère. C'était elle, même si les Sumériens de Mésopotamie semblaient être les véritables parents de la civilisation, les Égyptiens étaient juste derrière et les Égyptiens étaient admirés par le reste du monde antique car ce sont en quelque sorte qui ont je les mis en place. Et donc, cette religion ancienne serait une raison de leur faire confiance. Yahweh, eh bien, il est en quelque sorte un retardataire, Meré, Horus et Amon et tout cela serait des raisons de faire confiance. Mais Isaïe dit que les idoles vont trembler en sa présence. Et le conseil des Égyptiens sera confondu et Dieu les livrera entre les mains d'un maître dur. Si vous regardez le verset 2, il est assez clair qu'Isaïe connaît son histoire égyptienne parce que, comme je le souligne en arrière-plan, à deux reprises dans l'histoire égyptienne, vous avez eu une période de monarchie absolue, ce qu'on appelle l'ancien royaume, qui serait la pyramide. Âge. D'environ 3000 cents avant J.C. jusqu'à environ 2200 avant J.C. C'est à cette époque que furent construites les pyramides. J'ai commenté cela lorsque nous parlions d'Abraham. Abraham et Sarah ont probablement emmené des touristes à dos de chameau pour voir les pyramides. Ils avaient déjà 800 ans quand Abraham arriva. Parfois, nous avons l'idée qu'Abraham était un aborigène qui venait de sortir de la grotte en rampant. Non non. Deux des plus grandes cultures du monde, l'égyptienne et la sumérienne, avaient connu leur ascension et leur chute avant qu'Abraham n'entre en scène vers 2000. Ainsi, l'ancien royaume a été pendant près de 1000 ans cette monarchie absolue, le dieu roi assis sur le trône, puis tout s'est effondré. Et il y a eu une période d'environ 200 ans, entre 2200 et 2000, pendant laquelle ils se sont divisés en cités-états et cela s'appelle le premier intermédiaire. Et cela s'est reproduit lorsque l'Empire du Milieu s'est établi entre 2000 et 1750 environ. Et encore une fois, après 1750, il s'est à nouveau effondré dans ce qu'on appelle le deuxième intermédiaire. Ainsi, Isaïe connaît son histoire. J'exciterai les Égyptiens contre les Égyptiens, ils se battront les uns contre les autres, chacun contre son voisin, ville contre ville, royaume contre royaume. Et c'est à peu près ce qui s'est passé en Égypte au cours du premier millénaire avant J.C., 2000 jusqu'à l'époque du Christ. C'était à peu près une ville qui s'élevait et en conquérait d'autres, puis elle s'effondrait. Alors pourquoi leur faire confiance? Leur ancienne religion est incapable de leur apporter le genre de stabilité qu'ils recherchent. Dans les versets 5 à 10, nous arrivons à une deuxième raison pour laquelle nous pourrions vouloir faire confiance aux Égyptiens. Qu'est-ce que c'est? Pas dans 5 à 10. Le Nil, oui, oui. Je l'ai déjà dit, je pense, mais permettez-moi de le répéter. La seule raison pour laquelle l'Égypte existe est le Nil. Sur les 400 derniers kilomètres de sa distance, aucun affluent n'arrive. Cela signifie donc que la crue est absolument prévisible. Chaque année, au cours de la même semaine, le Nil est inondé et, au cours de la même semaine, quelques semaines plus tard, la crue diminue. Absolument prévisible. Et grâce à cette eau, il est littéralement possible de se tenir un pied dans le désert et l'autre dans un champ de blé. En ce qui concerne l'eau d'irrigation, c'est jusqu'où va l'Égypte en fait. On dit donc qu'au sud du delta, l'Égypte fait 10 000 de large et 300 000 de long. Ainsi, au fil des siècles, le Nil a permis à l'Égypte de nourrir sa population bien au-delà de ses frontières. Vous vous souvenez que l'apôtre Paul se trouvait sur un bateau céréalier allant de l'Égypte à Rome. Et la raison pour laquelle Marc-Antoine s'intéressait à Cléopâtre était qu'il voulait son grain. Maintenant, elle était peut-être mignonne aussi, mais la raison pour laquelle les Romains s'en prennent à l'Égypte est à cause de ce grain que le Nil rend possible. Alors oui, mais que dit Dieu? Que va-t-il arriver au Nil? Il sera séché. Et toutes les entreprises qui en dépendent, les pêcheurs, verset 8, ceux qui fabriquent du lin, verset 9, tout cela va faire faillite. Pour autant que nous le sachions, cela ne s'est jamais littéralement réalisé. Nous n'avons aucun exemple historique d'assèchement du Nil. Mais à quoi ça sert ici? À quoi sommes-nous enclins à faire confiance, en tant qu'humains? Il y a toujours une première fois pour tout. Je ne peux pas faire confiance à des choses comme ça. Nous sommes enclins à faire confiance à quoi? Nature. Ouais, l'abondance du monde physique. Et je trouve stupéfiant de voir à quel point notre société moderne peut être totalement déstabilisée par une catastrophe naturelle. C'est tout simplement stupéfiant. C'est comme si nous supposions que tout fonctionnera toujours comme il se doit. Et puis arrive une super tempête et la panique frappe parce que nous dépendons de la nature. Je regardais The Dust Bowl de Ken Burns. Et à la fin, il disait qu'Omaha se trouve dans le Midwest, ce qui pourrait entraîner un autre bol de poussière. Mais nous comptons sur la science et la technologie pour nous sauver. Et il n'y a tout simplement pas de réponse. Oui. Cette eau est partie. Oui. Oui. Cet aquifère qui traverse le centre du pays s'enfonce de plus en plus profondément sous terre depuis 75 ans. Et cela va de plus en plus vite à mesure que nous irriguons de plus en plus. Karen lisait quelque chose sur le fait que la super tempête frappant New York avait été prédite il y a 30 ans. Mais c'était trop cher de s'y préparer. Donc pas bloquer le tunnel de batterie qui mène au métro. Mais nous y sommes. Je ferai confiance à l'abondance de la nature et tout ira bien. Je ferai confiance aux dieux. Non, ils sont confus et confus. Ils ne savent pas d'où vient le monde. Ils ne savent pas où ça va. Ils n'ont aucun but. Je ferai confiance à la nature. La nature vous fera défaut. Continuons. Versets 11 à 15. Pourquoi faisons-nous confiance à l'Égypte ici? Pourquoi serions-nous enclins à faire confiance à l'Égypte ici? Leur intelligence, leur sagesse, leur conseiller à la cour et, encore une fois, comme je l'ai mentionné en arrière-plan, les premiers proverbes dont nous disposons viennent d'Égypte. Encore une fois, à l'époque d'Abraham. Et peut-être qu'ils y retournent plus tôt. Et l'idée est que ce genre de sagesse proverbiale était nécessaire pour diriger un tribunal complexe. Il est intéressant de voir combien de proverbes ont à voir avec la façon dont vous vous gérez dans un système hiérarchique complexe. Et sur cette base, il nous est alors facile de comprendre pourquoi Salomon aurait été celui qui a propagé la littérature proverbiale en Israël. parce qu'il a été le premier à disposer d'un grand terrain complexe. Et donc le problème est que vous êtes un jeune courtisan et que vous êtes invité à vous asseoir à la table du roi. Qu'est-ce que tu ne fais pas? Ne vous asseyez pas à côté du roi. Asseyez-vous au bout de la table, et s'il vous dit de monter d'une chaise ou deux, vous aurez fière allure. Mais si vous vous asseyez à côté de lui et qu'il vous dit, qui êtes-vous? Sors d'ici. Vous allez avoir l'air mauvais. Aussi, si vous venez à la table du roi, ne mangez pas comme un cochon. Mangez avec précaution. Encore une fois, la sagesse du monde antique. Voici l'Égypte, comme je dis, la grand-mère. C'est elle qui a développé la religion païenne. C'est elle qui possède l'abondance de richesses. C'est elle qui possède la sagesse ancienne. Et que leur arrive-t-il? Que leur sagesse ne pourra-t-elle pas leur dire? Verset 12. La volonté de Dieu, la voix de Dieu, le dessein de Dieu. J'en ai déjà parlé, mais cela mérite d'être répété. Le paganisme ne peut imaginer aucun but à l'existence. Parce que le paganisme déifie les forces de la nature. Et ces forces de la nature n'ont clairement aucun but, sauf peut-être la survie. Mais l'idée d'un plan et la mise en œuvre de ce plan vers un objectif louable, non. Non. Bien sûr, c'est exactement là où l'évolution nous a menés. Il n'y a aucun but dans l'évolution si ce n'est la survie du plus fort. En réalité, Darwin rationalisait simplement ce que les anciens païens savaient parfaitement. C'est un monde de hasard. Tout ce que vous pouvez espérer, c'est un fonctionnement continu des cycles comme ils ont toujours fonctionné. Ce que le paganisme ne veut pas, ce sont des surprises. Ainsi, l'idée selon laquelle Yahweh pourrait avoir un but dans ce qui se passe ici dépasse tout simplement la possibilité du paganisme. Et c'est vrai aujourd'hui dans notre monde. L'idée qu'il y a un but dans votre existence, que Dieu a un but pour votre vie et que, si vous le lui permettez, il peut l'atteindre, c'est une hérésie absolue pour un athée. Hérésie méprisable. Ce n'est pas possible. Mais la parole dit que c'est exactement le cas. Dieu a un but dans tout cela. Maintenant, il parle des dirigeants, des princes, verset 11, des conseillers, du pharaon. Comment peux-tu dire à Pharaon, « Je suis un fils de sage, un fils de rois anciens. » Où sont donc tes sages? Alors, quelle devrait être l'attitude appropriée d'un chrétien envers nos dirigeants? Respectez-les, mais ne comptez pas sur eux. Respectez-les, mais ne comptez pas sur eux. D'accord. Quoi d'autre? Honneur en termes de poste. Honneur à qui l'honneur est dû. Que ne devrions-nous pas faire? Nous ne devrions pas leur faire confiance. Nous ne devrions pas les adorer. Nous ne devrions pas nous attendre à ce qu'ils nous sauvent. Nous devrions prier pour eux. Mais voilà, les Égyptiens s'attendent à ce que ces dirigeants, avec toute leur sagesse ancienne, les délivrent et cela n'arrivera pas. Et Isaïe dit à Juda, « Ne crois-tu pas que cela va arriver? Ne leur faites pas confiance. » Maintenant rappelez-vous, politiquement ce qui s'est passé, les années ont passé. L'Assyrie a détruit le royaume du nord d'Israël. Ils font campagne selon votre point de vue, sur la côte philistine, ici. Juda est vraiment à l'arrière, derrière eux dans une certaine mesure, mais ils n'ont pas peur de Juda. Et la seule chose sur laquelle Juda pourrait compter est l'Égypte, vers laquelle se dirige la Syrie. Ne faites pas confiance aux Égyptiens. Ne leur faites pas confiance à cause de leur ancienne religion. Ne leur faites pas confiance à cause de leur abondance matérielle. Ne leur faites pas confiance en raison de leur sagesse ancienne et de leur prétendu grand leadership. Maintenant, quelle est la leçon pour nous de tout cela? Oui, c'est fascinant de voir le processus politique et ce que les gens attendent de tel ou tel dirigeant. Et ce que dit le livre d'Isaïe, c'est que lorsque vous attendez d'eux qu'ils vous sauvent, vous les condamnez à l'échec. Ils ne peuvent pas réussir. Voici donc la même leçon pour nous. Ne faites pas confiance à la religion. Ne faites pas confiance à la richesse matérielle. Ne faites pas confiance à la sagesse de l'homme telle qu'elle se manifeste dans un système politique. Or, la seconde moitié des chapitres versets 16 à 25 nous donne l'autre côté de cette image. Voici une autre raison de ne pas faire confiance à l'Égypte. En général, Mel, qui est assis ici, a fait ses devoirs, peut-être que quelqu'un d'autre l'a fait. Combien de fois ce jour-là apparaît-il entre le verset 16 et le verset 24? 1, 2, 3, 4, 5, et cela dépend de l'endroit où vous avez la traduction, cela peut être 6. Mais il y a au moins 5 fois qui apparaissent ce jour-là. Verset 16, verset 18, verset 19, verset 23, verset 24. Même. Oui, d'accord. Très bien, bien, merci. Maintenant, de quoi ça parle? Et pourquoi cette répétition? D'accord, une prophétie pour attirer l'attention lorsque le jour du jugement viendra? Même, ouais. Un jour arrive. Une journée qui ne sera pas comme toutes les autres. Là encore, l'hébreu utilise le mot jour, tout comme nous le faisons en anglais. Il peut faire référence à une période de 24 heures ou à une période de temps. Et il n'est jamais facile de savoir exactement lequel est lequel. Mais, au minimum, il s'agit d'une période de temps à venir. Une période différente de celle d'aujourd'hui. Une période qui n'est pas simplement une répétition de celle d'aujourd'hui. De sorte que la compréhension païenne du temps est circulaire. On vient de rien, on va à rien. Le jour succède à la nuit. La nuit succède au jour. Janvier suit décembre. Décembre suit novembre. Mais la Bible voit le temps de manière beaucoup plus linéaire. Du début jusqu'à la fin. Et demain n'est pas simplement une répétition d'aujourd'hui. Ce qui est intéressant du point de vue biblique, c'est que nous avons le choix concernant demain. S'agira-t-il d'une avancée par rapport à hier ou d'un déclin par rapport à hier? Ce que nous savons, c'est que ce ne sera pas une répétition d'hier. J'hésite à utiliser le meilleur et le pire, mais c'est ce sentiment que demain s'appuiera sur aujourd'hui ou que demain ne s'appuiera pas sur aujourd'hui. Mais ce ne sera pas pareil. C'est donc l'idée selon laquelle il existe une période de temps différente de celle d'aujourd'hui. Et ce jour-là, certaines choses vont se produire. Maintenant, que va-t-il se passer? Versets 16 et 17. Quelle est la signification de ces événements qui vont envahir l'Égypte? Verset 17, la toute fin. Ça dit quoi? Le Seigneur viendra contre eux à cause de quoi? Son plan. Son but. Le voici à nouveau. Dieu, à travers Isaïe, essaie de faire comprendre aux Judéens que ce qui se passe n'est pas le fruit du hasard. Ce qui se passe ne se résume pas simplement à la victoire des plus grands bataillons. Ce qui se passe, c'est que le dessein de Dieu se concrétise dans l'expérience humaine. Et il est très important que nous nous en souvenions. J'y pensais aujourd'hui. Ron Smith a vécu un événement très malheureux ce week-end. Il devait se rendre au Kenya pour y prêcher la convention de l'Africa Gospel Church. Il y aurait probablement 17 ou 1800 pasteurs. Je suis arrivé à Amsterdam et j'ai découvert que son passeport ne contenait que 4 mois et demi et que le Kenya n'accordait que des visas de 6 mois. Et il a donc été obligé de faire la queue pendant 4 heures et demie pour réserver à nouveau, puis a fait la queue pendant 3 heures et demie, harcelé physiquement par la sécurité parce qu'il était de toute évidence une sorte de fou religieux qui avait pris l'avion depuis les États-Unis. À Amsterdam et revenait maintenant pour transporter une bombe évidemment. J'y ai pensé aujourd'hui. Quelques façons de voir les choses. Une façon est de dire que ce n'était qu'un accident et que Dieu est au paradis en disant que c'est dommage. Une autre façon de voir les choses est que Dieu avait un but là-dedans et qu'il avait l'intention que cela se produise. Mais il existe une autre façon de voir les choses. Et ce n'est rien, c'est une surprise pour Dieu. Et s'il permet que quelque chose se produise, il a alors un moyen de le racheter. Et je propose que c'est ainsi que nous puissions regarder ces malheurs qui nous arrivent dans la vie. Ils ne échappent pas au contrôle de Dieu. Nous n'avons pas non plus besoin de croire que Dieu les a créés. Mais nous savons que Dieu est capable de tirer son bien de n'importe quoi si nous le lui permettons. Dieu dit donc au peuple hébreu de se rappeler que ces choses vont arriver. Ce n'est pas un accident. Ils ne sont pas simplement l'œuvre d'une puissante nation intimidatrice. Dieu travaille en eux et les utilise pour accomplir son bon dessein. Je pense que si nous pouvons vivre avec ce sentiment dans notre cœur, nous pouvons vivre en toute confiance. Nous pouvons vivre avec un certain degré d'excitation. Mon garçon, je me demande ce que Dieu va tirer de tout ça. Parce qu'il le peut et il le fait. Très bien, continuons. Les versets 18 à 25 sont une déclaration remarquable et remarquable. 16 et 17 disent qu'un désastre va s'abattre sur l'Égypte, mais quelle sera l'issue de ce désastre? Quelles sont certaines des choses qui vont arriver à l'Égypte selon ces versets? Ils vont adorer le Seigneur. Ils vont adorer le Seigneur. Il est à nouveau intéressant de se demander si ce jour s'est réellement produit. L'Égypte a été parmi les premières nations à se christianiser. L'Église égyptienne était plus forte à bien des égards que les Églises grecques. Nous ne savons pas exactement qui les a évangélisés, mais quelqu'un l'a fait. Et donc, d'un certain point de vue, cette prophétie s'est déjà réalisée. Maintenant, peut-être qu'il parle aussi d'un jour futur. Dur à dire. Ils vont adorer le Seigneur. Quelle sera la preuve de leur adoration de Dieu? Quelles en seront les expressions? Ils vont construire un autel au Seigneur avec une stèle commémorative à la frontière. Que va-t-il se passer quand ils auront des ennuis? Ils vont crier au Seigneur. Il les sauvera. Et quel sera le résultat au verset 21? Le Seigneur se fera connaître et qu'en est-il des Égyptiens? Ils connaîtront le Seigneur. Encore une fois, si vous voulez parler de religion dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de mot pour religion en hébreu. Parce que la religion suggère un compartiment de votre vie. Il y a votre travail, il y a votre famille, il y a vos loisirs, il y a votre religion. Et l'Ancien Testament n'en sait rien. Soit vous connaissez Dieu et cela se reflète dans tout ce que vous faites, soit vous ne le connaissez pas. Et le parallèle est que soit vous craignez Dieu et toute votre vie le reflète, soit vous ne le faites pas. Donc une déclaration remarquable. Les Égyptiens vont connaître le Seigneur. Maintenant, au verset 23 et 24, il est encore une fois possible de dire que cela s'est déjà réalisé au début de l'ère chrétienne, lorsque l'Empire byzantin contrôlait toute cette région. Mais cela peut aussi faire référence à la fin des temps. Je parlais de prophétie avec un ami la semaine dernière et pour moi, un bon exemple des dangers se trouve ici dans ce passage. Un professeur bien connu de l'Ancien Testament qui n'est en aucun cas un professeur de prophétie aux yeux fous, lorsque l'Égypte, le seul de tous les pays arabes, a conclu un traité de paix avec Israël, il a annoncé publiquement que c'était le début de l'accomplissement de l'Exode, excusez-moi Isaïe 19.23. Il y aura une route de l'Égypte à la Syrie et la Syrie viendra en Égypte et l'Égypte vers les Assyriens et les Égyptiens adoreront avec les Assyriens. Eh bien, cela n'est pas encore arrivé, n'est-ce pas? Permettez-moi de le répéter, ceux d'entre vous qui ont été avec moi pourront bientôt dire tout ce que je dis. C'est l'idée. La prophétie a deux objectifs. La prophétie prédictive a deux objectifs. Et rappelez-vous que toutes les prophéties ne sont pas des prophéties prédictives. De nombreuses prophéties s'adressent directement aux gens et les mettent au défi quant à la manière dont ils vivent actuellement. Si vous voulez parler de prophéties spécifiquement prédictives, alors vous parlez d'Ézéchiel 39 à 48, vous parlez de Zacharie 9 à 14 et vous parlez de Daniel 7 à 12 et beaucoup de gens croient au livre de l'Apocalypse, chapitre 4 à 21. C'est essentiellement ça. Si vous voulez parler de la prophétie de la fin des temps dans la Bible, c'est tout. Mais les gens ont fait fortune grâce à cela. Je ne sais pas si vous connaissez le nom de Jacques Van Impe ou non. Il est l'homme original en téflon. Cela fait 70 ans qu'il prédit la fin du monde. Et chaque fois qu'il a prouvé qu'il avait tort, il s'éclipse et dit, eh bien, ce que cela signifie, c'est ça et les gens le paient. À quoi sert la prophétie prédictive? Pas pour établir un calendrier du futur. Pas pour établir un calendrier du futur. Les échecs des calendriers au cours des 2000 dernières années devraient nous dire quelque chose. Pourquoi nous est-il donné? Premièrement, pour que nous puissions vivre avec confiance en sachant que Dieu connaît l'avenir. Comment tout cela va-t-il se passer? Je n'ai aucune idée. Est-ce que cela va se dérouler dans le cadre des desseins de Dieu? Tu ferais mieux d'y croire. Je pense que c'est Chuck Killian qui a dit que je n'étais ni un prémillénariste, ni un postmillénariste, ni un amillénariste. Je suis un PAN millénariste. Je pense que tout va s'arranger. Eh bien, je ne sais pas si je veux aller aussi loin. Mais, premièrement, l'avenir est connu de Dieu. C'est entre ses mains. Il n'y a pas de surprise. Deuxièmement, une fois rempli, notre confiance est assurée. Nous pouvons examiner la manière dont les prophéties du Christ se sont réalisées et dire oui, oui. Je crois. Maintenant, j'ai dit à beaucoup de gens que j'étais vraiment content de ne pas être en vie quand Jésus est né. Parce que bien sûr, j'aurais écrit un livre là-dessus et je me serais trompé. C'est ce qui est arrivé aux pharisiens. Ils avaient écrit des livres. Et Jésus ne correspondait pas à leurs livres. Mais nous pouvons regarder en arrière et dire « Oh oui, c'est exactement ce que disait le texte ». Voilà donc les deux raisons pour lesquelles nous avons des prophéties prédictives. Afin que nous puissions vivre avec confiance en sachant que l'avenir est entre les mains de Dieu et que lorsque les prophéties prédictives se réalisent, notre confiance soit approfondie et sécurisée. D'accord. Alors, ces prophéties vont-elles se réaliser? En ce jour-là, Israël sera le troisième avec l'Égypte et la Syrie, une bénédiction au milieu de la terre. Oui. Oui. Je peux le dire en toute confiance. Comment? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais ce ne sera pas pareil. C'est donc l'idée selon laquelle il existe une période de temps différente de celle d'aujourd'hui. Et si j'avais une idée, je ne la partagerais pas avec vous car ce serait probablement faux. Mais je suis aussi sûr que je suis ici, qu'il y aura peut-être un jour au paradis où je dirai, « Oh, bien sûr, c'est exactement ce qu'Isaïe a dit. » Le but de tout cela est de dire que voici nos deux raisons. Ne faites pas confiance à l'Égypte parce qu'elle est sous jugement. Ne faites pas confiance à l'Égypte parce qu'ils vont adorer votre Dieu. Le Dieu que vous abandonnez pour leur faire confiance. Tellement stupide. Ne le fais pas. Très bien, nous devons nous précipiter ici. De nombreuses prophéties s'adressent directement aux gens et les mettent au défi quant à la manière dont ils vivent actuellement. Le chapitre 20 nous dit à quel point nous savons peu de choses sur la vie d'Isaïe. Sa vraie vie. Nous savons beaucoup de choses sur ce qu'il pensait et sur sa relation avec Dieu, mais comment il a vécu, nous ne savons presque rien et ce que nous savons de ce chapitre est assez choquant. Il raconte que pendant 3 ans, il s'est promené nu et pieds nus, après avoir porté auparavant de la toile de jute. Nous en savons davantage sur Ézéchiel. Ézéchiel a subi le même genre de choses. Ézéchiel est prêtre. Jamais touché à une chose impure de sa vie pendant 30 ans. Maintenant, Dieu dit, d'accord, je veux que tu fasses cuire ton orge sur un feu de fumier humain. Ézéchiel dit, Dieu dit, d'accord, vous pouvez utiliser de la bouse de vache. Ouah! Qui voudrait être prophète? Maintenant, à quoi ça sert de se promener? Maintenant je pense qu'il portait probablement un pagne même si je ne peux pas le prouver. Je pense qu'il n'aurait pas été autorisé à sortir en public s'il avait été complètement nu. Mais comme je l'ai dit, je ne le sais pas. Mais le fait est, et cela nous est expliqué ici, que c'est de cette manière que Dieu va éloigner les Égyptiens. Excusez-moi, la manière dont les Assyriens vont entraîner les Égyptiens en exil. Strict. Ouah. Maintenant, pourquoi pensez-vous que Dieu a fait cela à Isaïe? Eh bien, peut-être que d'abord je demande pourquoi Dieu a fait cela et ensuite pourquoi l'a-t-il fait à Isaïe? Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Qu'en penses-tu? Aurait-il pu utiliser Isaïe comme aide visuelle? Absolument. Absolument. Aujourd'hui encore, nous sommes restreints parce que nous ne savons pas combien de personnes ont réellement compris. Mais il est probable que certains l'avaient, sinon nous n'aurions pas la Bible. Mais c'était suffisamment important pour Dieu pour faire passer ce point, ne faites pas confiance à l'Égypte. Qu'il était prêt à utiliser cette aide visuelle pendant 3 ans. Maintenant, pourquoi Isaïe? Il était susceptible de faire ce que Dieu. Je pense que c'est tout à fait vrai. Parce qu'il était disponible et obéissant. De nombreuses autres personnes n'étaient pas disponibles et elles auraient été obéissantes si elles avaient été disponibles. Si vous vous rendez disponible pour Dieu, n'envisagez pas que votre orgueil soit massacré. Parce que Dieu ne se soucie pas beaucoup de votre orgueil ou du mien. Il est très soucieux de faire passer son message. Et quoi qu'il en coûte. Maintenant, comme je l'ai dit en arrière-plan, il se passe ici un incident lié au timing. Un Philistin, rappelez-vous les Philistins, il y avait 5 villes et chacune d'elles avait un roi et c'était une sorte de confédération. Et le roi de l'un d'entre eux était généralement en quelque sorte le premier parmi ses égaux et dans ce cas, c'était Ashdod et Ashdod a mené une révolte et les Assyriens n'aimaient pas beaucoup cela et quand il était clair qu'Ashdod allait tomber, le roi d'Ashdod s'est enfui en Égypte et a demandé l'asile et ils l'ont volontiers accordé jusqu'à ce que les Assyriens les menacent. À ce moment-là, les Assyriens livrèrent le roi d'Ashdod aux Assyriens. Et c'est là que réside l'importance de cette dernière ligne du verset 6. C'est ce qui est arrivé à ceux en qui nous espérions et vers qui nous avons fui pour obtenir du secours du roi d'Assyrie, comment échapperons-nous? C'est ce qui arrive aux gens qui font confiance à l'Égypte. L'Égypte vous trahira. Et Isaïe dit que c'est ce qui va arriver aux Égyptiens. Pourquoi leur feriez-vous confiance? D'accord? Avez-vous quelque chose à commenter dans le chapitre 20? Vous avancez rapidement? Les faits se découvrent-elles? Vous pouvez toujours avoir un morceau de pagne. Bien sûr. Ouais. Je ne vais pas manifester mais bon, oui, les fesses seraient découvertes. C'est comme un bikini. Non seulement il obéissait à Dieu, mais il faisait également confiance à Dieu. Il y a une grande différence dans le fait que nous pouvons y obéir. Mais c'est juste un suivi aveugle. Vous avancez rapidement? Les fesses se découvrent-elles? Vous pouvez toujours avoir un morceau de pagne. Bien sûr. ce n'est pas un suivi aveugle. Ce n'est pas seulement l'obéissance, c'est la confiance. Oui. Isaïe est lui-même un modèle de ce qui va leur arriver, mais aussi un modèle de confiance en Dieu dont il ne comprend peut-être pas précisément les voies en ce moment. Mais je lui ferai confiance et je ferai ce qu'il dit. D'accord. Chapitre 21. C'est l'un des chapitres les plus bizarres. Je le dis d'emblée. Tout d'abord, il commence, vous pouvez voir au verset 9 que nous parlons de Babylone. Vous voyez où c'est écrit là-bas? Babylone est tombée, tombée. Mais il intitule ce poème l'oracle ou le message ou le fardeau concernant le désert de la mer. Maintenant, réfléchissez une minute. Le désert de la mer. Qu'est-ce que c'est? Quelle est cette figure de style? Un oxymore. Le désert est sec et stérile, la mer est tout sauf sèche et pourtant le désert de la mer tu ne peux pas le boire. Oui, oui, c'est de l'eau salée. Une bonne discussion parmi les commentateurs sur ce que cela signifie exactement, car personne ne le sait avec certitude. Mais je pense que c'est sarcastique. Babylone, sur l'Euphrate, avait accès au golfe Persique et le commerce maritime à l'est représentait une grande partie de sa richesse, ainsi qu'autour de l'Arabie et en remontant la mer Rouge jusqu'en Égypte, d'où les richesses de la mer, l'abondance de la mer pas vraiment. Sous la surface, toute cette abondance n'est finalement que nature sauvage. Toute cette richesse n'est finalement que du clinquant. Je pense donc que c'est au sarcasme qu'il fait face là. Il parle alors du verset 2 que les gens qui vont détruire Babylone et l'âme, c'est la Perse et la Médie. Nous avons déjà parlé des Mèdes qui vivent dans les monts Agro. Babylone ici, le fleuve Tigre qui coule dans cette direction, les monts Agro qui longent le Tigre et les Mèdes vivaient dans les monts Agro. La Perse et les Mèdes se sont unis pour détruire Babylone. Maintenant, au verset 2, évidemment, c'est Dieu qui parle. Une vision sévère me dit que le traître trahit, le destructeur détruit, il traite Babylone de traître et de destructeur et c'était certainement vrai, ils étaient très doués pour conclure des alliances avec les gens, puis les rompre. Monte, ô Elam, assiège au Médie, tous les soupirs qu'elle a provoqués, je suppose que c'est Yahweh, je mets un terme mais maintenant regarde les versets 3 et 4, donc, mes reins sont remplis d'angoisse, des douleurs m'ont saisi comme le douleur d'une femme en travail, je suis courbé pour ne pas entendre, je suis consterné pour ne pas voir, mon cœur chancelle. L'horreur m'a consterné, le crépuscule que je désirais s'est transformé pour moi en bien tremblant, maintenant c'est Yahweh ou Isaïe parle. Comment mettre les deux ensemble? J'ai mis fin à toute leur trahison, à toute leur trahison, à tous les soupirs qu'ils ont provoqués dans le monde et je suis frappé de chagrin. Comment mets-tu ces deux-là ensemble? Dans le cœur de Dieu ou dans le cœur d'Isaïe? Je pense que tu as tout à fait raison. Il a pleuré sur Jérusalem. Tout comme lorsque tu punis ton fils pour te briser le cœur. Oui, 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 je pense que c'est un aperçu très important du cœur de Dieu. Nous avons tendance à être en quelque sorte tout ou rien. Oh, si vous les aimez vraiment, vous ne leur ferez rien de mal. Ou, si vous leur faites quelque chose de mal, vous les détesterez. Il y a des conséquences qui surviennent et Dieu ne va pas empêcher ces conséquences tout le temps. Parfois il le fait de manière remarquable mais pas tout le temps. Mais s'il laisse cela venir, s'il l'apporte, c'est toujours par cœur brisé. Je pense que c'est un problème. Un aperçu très important, le verset 5, je pense, est juste une petite image de la fête de Belshazzar. Vous vous souvenez de cette histoire? Belshazzar est le commandant en second de Babylone. Le vrai roi est sorti dans le désert et a emmené les dieux avec lui et Belshazzar est le commandant en second. Belshazzar fait un festin et ils sortent les vases d'or de ce temple de Judée et ils boivent. De ces vases et louant les dieux de Babylone et une main commence à écrire sur le mur parler des détés cette nuit-là, Belshazzar meurt et la ville est prise, préparez la table, étendez les tapis, mangez, buvez, levez-vous, prince, huilez les boucliers. Maintenant versets 6 à 9 sont un mystère absolu pour tout le monde. Que se passe-t-il? Ainsi le Seigneur m'a dit, va mettre un guetteur, qu'il annonce ce qu'il voit quand il verra des cavaliers par deux cavaliers sur des ânes, cavaliers sur des chameaux qu'il écoute attentivement, très attentivement. Alors celui qui voyait s'écria, sur une tour de Gaï, tiens-toi debout, Seigneur, continuellement le jour à mon poste, je suis stationné des nuits entières, voici venir des cavaliers par pair, et il répondit, Babylone est tombée. Eh bien, nous savons ce que cela signifie, mais quel est le problème avec les cavaliers par pair, cavaliers sur des ânes, cavaliers sur des chameaux, personne ne le sait avec certitude je suppose, et c'est là que je descends, je suppose que vous êtes sur les routes des caravanes venant vers l'ouest de Babylone et vous avez ces réfugiés qui affluent le long des routes des caravanes et le gardien est informé. Faites-nous savoir quand vous voyez les réfugiés arriver et que c'est ce qui se passe ici, peut-être comme je l'ai dit, c'est celui qui a le plus de sens à prendre en compte moi mais encore une fois. C'est amusant de lire les commentaires, vous pouvez avoir toutes les interprétations sous le soleil presque une par commentaire. Babylone est tombée, toutes ces images sculptées sont tombées au sol au mont battu et vanné ce que j'ai entendu du Seigneur des armées, le Dieu d'Israël, je vous l'annonce. Maintenant, je pense que cela parle aux exilés là-bas, 150 ans plus tard, d'Isaïe, qui sont à Babylone et qui ont été battus et vannés. Vous savez comment le battage s'est produit? Vous conduisiez un bœuf sur le tas de grains séparant les grains des balles. Ensuite, vous preniez une fourche à vanner et jetiez tout le désordre en l'air et le vent emportait la balle et le grain retombait au sol trois ou quatre endroits après. Le livre, les exilés sont appelés ceux battus et vannés et j'imagine un exil là-bas à Babylone avec peut-être juste un morceau du rouleau d'Isaïe et sur ce morceau se trouve cette Babylone déchue, tombée toutes les images sculptées de l'île a brisé ses dieux, au mont battu et vanné ce que j'ai entendu du Seigneur des armées, le Dieu d'Israël, je vous l'annonce amis. Amis, ne nous assimilons pas aux Babyloniens, ne leur vendons pas, ne donnons pas renforce notre foi biblique parce que Dieu dit que Babylone va tomber. Zec, tu te moques de moi, Babylone est la plus grande nation du monde, ils sont tous puissants, je sais, mais c'est dans le parchemin que je vais me tenir debout. Et alors, le jour où, contre toute attente, Babylone tomba et Cyrus le Perse dit, quiconque veut rentrer chez lui peut rentrer chez lui et je paierai pour la reconstruction de son temple. Il y avait des Judéens prêts à partir à cause de paroles comme celle-ci. D'accord? Les derniers versets de 11 à 16 encore, je pense, et là encore, vous avez des commentateurs partout, je pense que nous parlons de la route des caravanes qui traversait le désert de Babylone à Édom. La Douma est probablement une référence à Édom. C'est un anagramme, vous avez réorganisé les lettres donc Babylone ici, la Méditerranée là-bas, c'est bien disproportionné, essayons encore, ouais, c'est mieux, d'accord, vous n'y croirez peut-être pas mais c'est la Galilée ici, la mer morte ici, Édom se trouve ici et encore une partie, ce qui est important, c'est la connexion avec l'Égypte. Une route de caravane traversée par ici, traversée quelques oasis ici et je pense que ce qui se passe ici encore, vous avez les réfugiés fuyant la Babylone détruite et la nouvelle arrive et ces groupes qui dépendaient sur ce commerce, réalisez que nous sommes en grande difficulté ici. Donc l'oracle concernant Douma au verset 11, l'oracle concernant l'Arabie au verset 13 et les autres références mentionnées ici semblent toutes se rapporter quelque part ici. Le roi babylonien était en fait ici quelque part l'oasis qu'il vivait, à tel point que je veux alors vous lire un hymne de l'Avent basé sur le chapitre 19. Le gardien nous dit de la nuit quels sont ses signes de promesse. Le voyageur au-dessus de cette montagne voit cette étoile rayonnante de gloire. Le gardien fait que ces beaux rayons devraient prédire la joie ou l'espoir. Voyageur, oui, cela amène le jour promis, le jour d'Israël. Le gardien nous dit de la nuit plus haut encore, cette étoile montre la bénédiction et la lumière du voyageur, la paix et la vérité, son cours laisse présager le gardien dont les rayons seuls doreront l'endroit qui leur a donné naissance, les âges du voyageur sont son propre voir, il éclate sur toute la terre, le gardien nous parle du la nuit car le matin semble se lever voyageur, les ténèbres prennent leur envol, le doute et la terreur se retirent, gardien que ton errance cesse vers ta demeure. Tranquille voyageur, voici, le prince de la paix voici, le fils de Dieu est venu, gardien, parle-nous de la nuit, le matin vient et aussi le soir si vous voulez demander. Demandez et revenez. John Bowring a pris ses couplets et a dit de quoi parlons-nous ici à la fin, que cherche le gardien, il cherche la lumière. De la lumière chantons, ô venez tous fidèles joyeux et triomphants, ô venez à Bethléem, venez le voir naître le roi des anges, ô venez adorons-le, ô venez adorons le Christ le Seigneur gardien, raconte-nous la nuit, le matin vient, Dieu merci, le matin est venu, que Dieu vous bénisse. Ralph demandait si nous allions nous rencontrer la veille de Noël, non, ce n'est pas le cas, mais nous allons nous rencontrer la semaine prochaine. Alors faites vos achats de Noël la semaine prochaine, nous terminerons ces oracles contre les nations. C'est le docteur John Oswald dans son enseignement sur le livre d'Isaïe. C'est la séance numéro 10 d'Isaïe, chapitre 19 à 21.